Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai donc le plaisir, l'honneur aussi, de vous présenter Jacqueline Dupaquier. Vous présenter, c'est un grand mot, puisque à Bordeaux, tout le monde connaît Jacqueline depuis très longtemps.
Très bon,
chacun se souvient que pendant des années, elle a régné à proprement parler sur le musée des arts décoratifs de Bordeaux et qu'elle a contribué d'une façon essentielle et définitive à lui donner son importance à la fois dans le contenu et aussi dans la politique qui a été conduite, politique d'exposition en particulier. Alors, Jacqueline Dupaquier a beaucoup publié, beaucoup écrit, des livres que vous connaissez certainement, ou beaucoup d'entre eux, et elle vient de nous offrir, maintenant, publié aux éditions Norma, un ouvrage qui s'appelle « La miniature, portrait de l'intimité ». Et ce qui est un peu rare dans un titre de livre, c'est complété par une citation. « En contemplant mes traits, ne songez qu'à mon cœur ». C'est joli, un petit peu énigmatique. Et alors, bon, il faut commencer. Que je rappelle aussi, avant de lancer cet échange, que Jacqueline Dupaquier a commencé sa carrière en publiant un ouvrage universitaire consacré à Pierre-Édouard Dagoty, qui est un miniaturiste que sans doute tous les Bordelais connaissent et dont elle nous parlera à l'occasion, et qu'en 1995, alors qu'elle était au Musée des Arts Décoratifs, elle a organisé une exposition exceptionnelle, parce qu'on ne fait jamais d'exposition de miniatures, mais elle a réussi à en organiser une. Ça s'appelait « L'âge d'or du petit portrait ». Et ceux qui ont eu l'occasion de la visiter doivent évidemment s'en souvenir. Alors, ma première question sera un petit peu double. C'est-à-dire, comment le monde de la miniature est un monde très, très, très restreint, finalement, très international. Ce sont des passionnés, mais ils sont en nombre, ils se comptent, c'est une chapelle. Alors la première question, c'est comment entre-t-on dans cette chapelle? Comment, ça veut dire, d'où peut-on acquérir la passion ou l'intérêt pour la miniature? Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est un peu lié, c'est qu'est-ce que c'est qu'une miniature? Parce que dans votre texte, vous parlez tantôt de miniature, tantôt de petits portraits. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous faites une différence? Et en tout cas, comment devient-on amateur de miniature ou de petits portraits?
Alors, je vais répondre à cette double question. D'abord, comment j'en suis venue à aimer la miniature. Et ça, c'est grâce à Raymond Genvrault, à cette merveilleuse collection Genvrault qui a été déposée au Musée des Arts Décoratifs et qui, parmi d'autres trésors, recelait une collection de miniatures tout à fait intéressante et composée avec énormément de discernement et de goût, qui étaient vraiment les qualités de Raymond Genvrault. Et à l'époque, le professeur Pariset était notre professeur d'histoire de l'art à l'Université de Bordeaux, et il, très, très finement, avec beaucoup de perspicacité, il m'a conseillé de m'intéresser à la miniature. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la miniature parce que j'ai pris une loupe qui m'a permis de regarder très bien les miniatures. Et c'est vrai que quand on regarde une miniature avec une loupe, on a une impression tout à fait extraordinaire. Parce que tout à coup, on a l'impression de pénétrer dans l'âme et dans la personnalité du modèle qui est représenté. C'est vraiment quelque chose de très extraordinaire. Et à partir de cette découverte, eh bien, je me suis mise à rechercher des dagotis. Il y en avait beaucoup, il y en avait une quarantaine à peu près, qui avaient été réunis par Raymond Genvrault. Et Raymond Genvrault, qui connaissait admirablement Bordeaux, avait pu mettre des noms sur beaucoup des personnes peintes par dagotis. Donc j'ai continué en quelque sorte cette quête de dagotis dans les familles bordelaises, notamment dans les familles d'origine anglo-saxonne et protestante. Et j'ai découvert toutes sortes de choses. Et puis j'ai eu la grande chance de rencontrer des descendants de dagotis qui avaient des portraits tout à fait étonnants, et notamment un portrait qui est d'ailleurs représenté dans le livre et qui est merveilleusement bien présenté au Musée des Arts Décoratifs actuellement, et qui est un portrait qui réunit la femme de dagotis et ses deux filles aînées. C'est une grande miniature sur ivoire.
Et lui-même.
Qui est tout à fait... Et lui-même, parce qu'une des filles, en effet, la fille aînée, qui est devenue elle-même miniaturiste, tient une miniature de son père. Et c'est un portrait tout à fait extraordinaire, parce que d'abord, il y a une espèce de bonheur qui se dégage de cette miniature. Je pense que dagotis était très heureux d'avoir épousé la jolie femme qui est représentée sur la miniature, et puis très heureux de ses deux petites filles. Et en même temps, il est à ce moment-là un miniaturiste qui commence à être très connu à Bordeaux, et la miniature que tient l'aînée des petites filles est en fait agrandie par rapport à son format de miniature. Donc on voit très bien cette miniature, et on comprend que c'était aussi un peu, pardonnez-moi, le terme est un peu vulgaire, mais que c'était un peu aussi une œuvre de propagande. C'était une façon de montrer dagotis de cette façon, montrait qu'il était un miniaturiste de grand talent.
Alors, miniaturiste ou portraitiste en petit ?
Alors, voilà, pardon. Alors là, évidemment, je me suis un petit peu perdue, peut-être, avec dagotis. Effectivement, par moments, je parle de petits portraits et par moments, je parle de miniature. En fait, c'est pour ne pas tout le temps répéter le mot miniature, tout simplement.
C'est une clause de style, non ?
Et petit portrait, quand nous avons fait l'exposition L'âge d'or du petit portrait, nous avons préféré... Je dis nous parce que c'est une exposition que j'ai pu faire avec le conservateur du musée de l'émaillerie à Genève, qui avait une magnifique collection, et avec le cabinet des dessins. À l'époque, ça s'appelait le cabinet des dessins. C'est devenu le département des arts graphiques du Louvre, où il y a aussi une collection tout à fait extraordinaire. Et nous nous étions rendus compte qu'en fait, le mot miniature est un terme un peu ambigu. Je me souviens qu'une fois, j'avais demandé à un négociant en vin bordelais, dont je tairai le nom, je lui avais demandé s'il avait des miniatures. Et il pensait que je parlais des petites bouteilles de vin. Bon, donc, nous nous sommes rendus compte que ce terme de miniature était ambigu et qu'il fallait, trouver une... que le terme de petit portrait était peut-être mieux choisi. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose aussi à propos du titre du livre. Robert Coustet a cité cette phrase « En contemplant mes traits, ne songez qu'à mon cœur ». Alors, je dois vous dire que c'est une devise tracée en cheveux qui se trouve au revers d'une miniature de dagotis et qui représente une jeune femme d'époque empire, qui n'est pas d'une grande beauté, mais qui a un air très doux. Et c'est au revers donc de son portrait, elle a fait tracer par un miniaturiste en cheveux, qui travaillait d'ailleurs beaucoup avec dagotis, qui s'appelait Voxin, elle a fait tracer cette très jolie devise qui, à mon avis, correspond exactement à ce qu'est une miniature. En contemplant mes traits, ne songez qu'à mon cœur. Et il y a aussi un détail sur la miniature de cette jeune femme, c'est qu'elle a autour du cou une petite cordelière noire, qui est en fait une cordelière en cheveux. Et on voit qu'au bout de cette cordelière en cheveux, elle a une miniature qu'elle a glissée dans son décolleté, et le décolleté est légèrement bombé à cet endroit-là. Et je me suis rendu compte que le très beau portrait qu'Ingres a fait de Madame de Vaucet, Madame de Vaucet a exactement la même cordelière en cheveux autour du cou qui maintient une miniature dans son décolleté.
Donc vous venez là, j'avais d'autres questions peut-être à vous poser, mais on suit le fil de votre propos. Vous venez là de nous donner un petit peu un fil concernant ce qui fait la spécificité de ces petits portraits, parce qu'elle peut être d'un ordre, de deux ordres. Il peut y avoir une spécificité technique, c'est-à-dire ce petit portrait comment c'est fait, dans quelles conditions, comment travaille l'artiste, est-ce que c'est comme vraiment une petite peinture sur bois, sur toile réduite, ces choses-là. Mais il y a aussi, et là vous venez de l'évoquer directement, donc restons-en là si vous voulez, dans cette direction, on pourra revenir après, il y a la signification de ce portrait. Car c'est ce qui m'a beaucoup frappé en vous lisant. Il ne s'agit pas simplement d'un ouvrage qui relate en suivant un ordre chronologique la naissance, l'épanouissement et puis l'abandon de ce genre de peinture. Ça, c'est parfaitement présent dans le livre, donc c'est précieux pour l'historien. Mais il y a réellement un propos, j'ose pas dire une thèse parce que c'est un très très grand mot, mais il y a quand même un fil conducteur. Et ce fil conducteur, vous venez de l'évoquer avec cette devise, vous venez d'en parler, et il me semble que ça mérite que vous y insistez, dans la mesure où c'est un point qui est vous êtes personnel,
oui,
dans votre démonstration.
Oui, 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 vous avez tout à fait raison. Parce que, en fait, en faisant ce livre, j'ai eu envie de vraiment de faire connaître la miniature. C'est pas tellement un livre qui s'adresse à des spécialistes ou à des gens qui sont déjà convertis, je dirais, à l'art de la miniature. Mais j'ai eu envie de faire ce livre pour montrer aux gens qui ne la connaissent pas très bien que la miniature a eu un rôle absolument capital, hein. Un rôle essentiel dans la société jusqu'à la vulgarisation de la photographie. Et donc, la miniature apparaît en Angleterre à la cour de Henri VIII, Tudor, se développe d'une manière absolument extraordinaire à la cour d'Élisabeth. Et donc, à ce moment-là, la miniature est peinte sur vélin. Mais dès le départ, la miniature a eu ce caractère, cette spécificité sentimentale très forte, vraiment très très forte, même si elle a été aussi un objet, enfin une peinture de célébration, notamment à la cour d'Élisabeth Ière, le peintre en miniature d'Élisabeth, qui s'appelait Nicolas Hilliard, était vraiment chargé de célébrer à la fois la beauté, la jeunesse, le talent, le pouvoir de la reine d'Angleterre. C'était vraiment quelque chose de très important. Et la miniature a eu aussi un rôle extrêmement important dans les relations diplomatiques.
Et un rôle politique
Elle a eu un rôle politique. Par exemple, on sait par le livre du collectionneur publié par Mass-Sancier que en quelques mois, le miniaturiste Sicardi a fait plus de 30 portraits de Louis XVI qui étaient destinés à orner des boîtes et des tabatières qui étaient offertes comme cadeaux diplomatiques ou qui étaient offertes pour manifester la reconnaissance du roi. Par exemple, Louis XVI, l'année de son avènement, en 1774, a été vacciné contre la petite vérole par le docteur Tronchin. Et pour le remercier de cet acte médical, il lui a offert son portrait, une magnifique boîte en or, avec une miniature, enfin le représentant, peinte par Sicardi. Donc la miniature a eu vraiment un rôle très important, un rôle vraiment politique, oui, important.
De diffusion de l'image
tout
royale.
Tout à fait, de diffusion de l'image royale.
Ou de l'image de l'être aimé.
Et puis alors,
mais, c'est pas politique.
Mais ça n'est pas une diffusion.
Ouais.
Parce que l'image de l'être aimé, évidemment, est gardée jalousement dans le décolleté d'une dame, dans la poche d'un homme, voilà, contre son cœur. Et alors, justement, il y a une anecdote tout à fait étonnante que j'ai trouvée dans les mémoires de la reine Hortense. La reine Hortense, au moment des 100 jours, est à Malmaison et Napoléon vient la voir. L'impératrice Joséphine est morte depuis peu de temps et Napoléon est encore très ému et demande à Hortense, donc qui est la fille, comme vous savez, de l'impératrice Joséphine, Hortense de Beauharnais, il lui demande un portrait de Joséphine, il lui demande un portrait de l'impératrice.
Il n'en avait pas.
Apparemment, il ne devait pas en avoir. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle lui donne une tasse. Une tasse sur laquelle il y a une miniature représentant l'impératrice Joséphine. Alors, sans doute, il est très heureux. Enfin, ça, la reine Hortense ne le dit pas. Et puis, quand il est obligé de partir, alors définitivement, pour l'île d'Elbe, il revient voir Hortense et il lui demande quand même un autre portrait de Joséphine, un peu plus pratique quand même qu'une tasse, évidemment.
Pour garder sur son cœur.
Pour le garder sur son cœur, voilà.
Vous venez de parler, alors ça, c'est ma curiosité, dans la façon dont travaillent ces artistes, ces portraits sont multipliés. Mais est-ce qu'ils sont autographes ou est-ce qu'un grand miniaturiste a un atelier et qu'il surveille, qu'il prend la responsabilité de signer des œuvres qui peuvent être de la main d'un collaborateur, son épouse peut-être parfois.
Oui, l'épouse ou la fille, par exemple, ça a été le cas de Dagoty, fille a beaucoup travaillé avec lui, mais Isabelle, qui est un des miniaturistes les plus connus, qui a eu évidemment une carrière d'abord très longue et absolument extraordinaire, d'une fécondité extraordinaire, puisqu'il a été à la fois, il a commencé à peindre sous Louis XVI, il a été vraiment le grand peintre du consulat et de l'Empire, et puis de la Restauration, mais ça s'est terminé seulement, enfin, il est mort je crois, sous le règne de Napoléon III, donc extrêmement tard. Et alors, évidemment, notamment pour les portraits qui ont été exécutés au moment de l'Empire, bien sûr, on demandait tellement de portraits de l'empereur, de sa famille, de ses sœurs, de ses beaux-frères, de ses épouses, que, bien sûr, Isabelle ne pouvait pas répondre à cette demande. Donc, il avait un atelier, et avec des élèves qu'il avait formés, et qui refaisait ses portraits d'après le modèle initial d'Isabelle et qui était refait en très grande quantité et puis quelquefois je pense qu'Isabelle comme Corot aussi, on disait que Corot a fait ça aussi, signait le soir toutes ces miniatures qui avaient été refaites par ses aides quand elles avaient été bien entendu très bien exécutées.
Merci. Bien, donc, il y a aussi un autre thème que j'ai suivi tout au long de votre ouvrage, que j'ai trouvé effectivement également très, très original, parce que ça sort donc du panorama historique habituel. Vous établissez une relation en tout, quasi permanente entre la miniature et la littérature. Ça m'a beaucoup intéressé, beaucoup séduit, et je trouvais que c'était aussi quelque chose qui vous était propre, que cette attention portée aux références littéraires de la miniature.
Oui, ça vous avez tout à fait raison, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand même, en tout cas en France, ça n'est pas le cas en Angleterre où on aime énormément la miniature, mais en France la miniature est un peu méprisée, il faut bien le dire, enfin en tout cas elle est tout à fait méconnue. Et évidemment ça m'a beaucoup intéressée dès que j'ai commencé à étudier la miniature, de voir que dans la littérature, effectivement, on parle très souvent de miniature. Alors, l'auteur qui a le mieux et le plus abondamment parlé de la miniature, c'est Balzac. Et ça c'est vraiment tout à fait extraordinaire.
C'est aussi le grand âge, peut-être, un des grands moments.
Tout à fait, c'est un des grands moments de la miniature. C'est, si vous voulez, l'âge d'or donc de la miniature, c'est en gros 1750, c'est-à-dire au moment où on commence à faire des miniatures sur ivoire, et 1830. Mais Balzac a été très, très frappé par la miniature. Et alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que Balzac au départ était un grand amateur de peinture, mais il n'aimait pas la miniature. Et en fait, c'est parce qu'il a rencontré Madame Anska, dont il est devenu d'abord par leur correspondance extrêmement amoureux. Vous savez que Balzac et Madame Anska se sont écrits pendant 15 ans. Balzac étant en France et Madame Anska en Ukraine. Alors, de temps en temps, ils se sont rencontrés.
C'est idéal pour une relation amoureuse.
Tout à fait. Alors, de temps en temps, ils se sont rencontrés en Suisse, et puis ils se sont rencontrés à Vienne. Et à Vienne, Madame Anska a fait faire son portrait par un miniaturiste très important qui s'appelait Michael Moritz Daffinger et qui était le miniaturiste attitré, je dirais, de la cour de Vienne et de l'aristocratie viennoise et aussi de la bourgeoisie. Donc, Madame Anska va, d'ailleurs, et Balzac assiste aux séances de pose et se fait peindre par Daffinger. Et puis Madame Anska repart avec son mari, Monsieur Anski, dans le fin fond de l'Ukraine. Et Balzac, évidemment, est désespéré de l'avoir quittée et il veut absolument avoir un portrait de Madame Anska. Et Madame Anska lui fait parvenir un médaillon refait d'après la miniature de Daffinger. Et quand Balzac reçoit, lui qui n'aime pas tellement la miniature, en plus, si par hasard il s'intéresse à la miniature, il s'intéresse uniquement aux miniatures de Madame de Mirbel, qui était la grande artiste parisienne de l'époque, très très grande artiste, il n'aimait pas tellement Daffinger, mais quand il reçoit ce médaillon représentant Madame Anska, il écrit à Madame Anska, il lui dit qu'il est hébété de bonheur. Mmh. Et à partir de ce moment-là, il parle de la miniature comme d'un compagnon, d'un ami vers lequel il se tourne quand il a évidemment la nostalgie de Madame Anska qui est si loin. Il dit aussi, il considère cette miniature comme un talisman. Il écrit à Madame Anska et la correspondance échangée, enfin la correspondance, moi je n'ai pas lu les lettres de Madame Anska, mais j'ai lu les lettres que Balzac a écrites à Madame Anska et c'est absolument passionnant. Et il lui dit que quand il travaille, que quand il a écrit quelques pages, il les lit devant la miniature et que la miniature est un talisman. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et Balzac va, si vous voulez, ce qu'il a vécu avec ce portrait de Madame Anska. Alors, après, heureusement, il l'a reçu à la mort de Monsieur Anski. Madame Anska lui envoie quand même l'original. Il reçoit le portrait de Daffinger. Et il va mettre dans la bouche, dans la pensée des héros de ses livres, cet amour de la miniature. Et ça, c'est vrai que Balzac a parlé de la miniature comme personne. Et puis Stendhal a admirablement bien parlé de la miniature aussi. Et Stendhal a une très jolie phrase. Alors malheureusement, j'ai une mauvaise mémoire. Je ne vais pas pouvoir vous dire exactement cette phrase. C'est une phrase que j'ai trouvée dans Rome, Naples et Florence. Et Stendhal dit que quand on voit un portrait de femme en miniature, on se sent tout près de cette femme, tandis qu'évidemment le grand portrait, mais toutes sortes de convenances entre le modèle et la personne qui le voilà, une distance entre. Mais il dit ça de façon très jolie, que je ne connais pas par cœur. Voilà. Et alors j'ai eu beaucoup de chance. Je continue à parler de Madame Anska. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu faire la connaissance d'un descendant de Madame Anska. Madame Anska avait des sœurs qui étaient plus jeunes qu'elle, qui ont eu des enfants, et j'ai fait la connaissance du descendant qui habite Paris et qui possède cette merveilleuse miniature. Ah oui. Car elle est merveilleuse. Enfin, c'est pas une de celles que je préfère, mais enfin, elle est quand même
le
très très belle.
Noir,
n'est-ce pas, oui, qui représente Madame Anska, peinte par Daffinger. Voilà. Et donc, j'ai pu la reproduire dans mon livre. Voilà, j'étais très contente. Et c'est vraiment la miniature qui ouvre, c'est le petit portrait, je dis le petit portrait, qui ouvre le livre.
Donc, vous venez de restituer à ces petits portraits, que l'on pourrait considérer comme des bibelots, finalement, leur sens, leur signification, leur épaisseur sentimentale et historique.
Voilà.
Alors maintenant, on peut peut-être, essayer de voir à travers le temps une anthologie de cette miniature, comment elle se développe, comment elle évolue. Vous avez évoqué les chapitres consacrés à la naissance un peu merveilleuse, parce que du premier coup, c'est un art qui a atteint un raffinement exceptionnel, n'est-ce pas, la naissance de la miniature en Angleterre. Mais je crois que chaque pays a eu son moment. Il y a le moment de la miniature suisse, il y a le moment de la miniature viennoise, et puis il y a la miniature française de Louis XIV.
Oui. Non, c'était un art international. Tout le monde pratiquait la miniature en Europe et aux États-Unis. Alors, évidemment, la miniature, ce qu'on appelle la miniature élisabéthaine, ça a été un moment tout à fait extraordinaire. Et il faut savoir que c'est un des plus grands portraitistes européens qui a initié cet art de la miniature en Angleterre et qui est Holbein le Jeune.
Ah, c'est magnifique.
Et ce sont vraiment des portraits tout à fait extraordinaires. Et puis donc, il y a eu Nicolas Hilliard, Isaac Oliver. Enfin, donc, j'ai consacré un chapitre relativement important, je crois, à la miniature anglaise. D'abord parce qu'elle n'est pas très connue en France, en fait. Et en même temps, c'est certainement un pays où la miniature est arrivée d'emblée à un niveau extrêmement élevé. Et où il y a eu aussi, entre la littérature et la littérature la plus précieuse, la plus ésotérique, et la miniature, il y a eu vraiment un rapport extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de capital. Et puis la miniature anglaise continuera à être quelque chose de tout à fait remarquable. Et puis il faut dire que la miniature française sur ivoire est initiée en fait par une pastelliste vénitienne, Rosalba Carriera. Qui va la première avoir l'idée de peindre sur ivoire, parce qu'elle décorait beaucoup de petites boîtes en ivoire. Mais ensuite, il y a eu un miniaturiste très important, un miniaturiste qui venait de Suède, qui s'appelait Hall, et qui a eu l'idée de... Parce que Rosalba Carriera peignait sur des tablettes d'ivoire relativement épaisses. Et Hall a eu l'idée, Hall et Massé, enfin quelques autres, mais enfin en général, on attribue cela à Hall, l'idée de faire débiter les plaques d'ivoire de manière extrêmement, extrêmement fine. Si bien que si vous voulez, l'ivoire apporte une certaine transparence. Et évidemment, c'est absolument merveilleux pour rendre les carnations, toute la sensualité des tissus. Enfin, la miniature sur ivoire, évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, et à partir de 1750, la miniature sur ivoire va se pratiquer dans tous les pays d'Europe. Je dois dire, et ça n'est pas par chauvinisme, que la miniature française et la miniature suisse, autour de 1800, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mmh. Oui, vraiment, tout à fait.
Et alors, en province, par exemple, pour parler, vous voyez, vous avez déjà parlé de Dagoty, mais je pense qu'il n'est pas unique à Bordeaux, qu'il y a d'autres.
Non,
comme vous avez très bien étudié ça, faites-nous profiter un petit peu, parce que en plus le livre a cette qualité qu'il est destiné à une diffusion. Très, très, très large, et que c'est en même temps aussi, je trouve, un bel ouvrage de publicité pour l'art bordelais et pour Bordeaux que vous nous donnez là. Parce qu'il est rare que dans un panorama dit historique qui couvre plusieurs siècles sur un art, peu importe qu'il soit majeur ou moins important, il est rare que les provinces soient représentées, et plus rare encore que ce soit Bordeaux. Et là, vous avez fait la part belle de façon convaincante, je dirais. C'est-à-dire que vous n'en faites pas trop, si bien qu'on peut... On vous croit lorsque vous nous parlez de la miniature bordelaise.
Je connaissais quand même très bien la miniature... Enfin, oui assez bien la miniature bordelaise. Et c'est vrai que... J'ai trouvé que dans une ville où, au fond, où on n'aimait pas tellement la peinture, bien sûr, le portrait a eu beaucoup d'importance, c'est le cas de Bordeaux, et la miniature en particulier. Alors, je dois dire une chose, c'est que je suis très heureuse et je rends grâce à mon éditeur qui a accepté que mon livre soit aussi abondamment illustré, parce qu'il y a, il y a plus de... à peu près 220 illustrations, je crois. Et j'ai pu avoir accès, pour illustrer ce livre, à des collections très prestigieuses, des collections privées absolument extraordinaires, mais aussi des collections publiques. Et le Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux, et je remercie mon amie Bernadette de Boisson, qui est parmi nous ce soir, le musée donc m'a autorisé à reproduire beaucoup de ces miniatures, beaucoup des miniatures de la collection Genvrault et de tout ce qui a été acheté après la collection Genvrault. Et puis, j'ai eu accès aussi à une très belle collection qui est la collection du Musée des Arts Décoratifs de Paris. Et puis, j'ai pris quelques pièces en Angleterre, évidemment, à Genève, au Musée Cognac-Jay, enfin, dans différents établissements. Et puis, des miniatures venant de collections privées. Et là, je crois que c'est... Si je puis me permettre, l'autre intérêt de mon livre, c'est que là, grâce, j'ai pu publier des miniatures qui ne sont pas du tout connues. Donc je pense que là, je peux m'adresser aux spécialistes et aux amateurs de la miniature.
Et alors, dans ce parcours, vous nous montrez comment la signification de ces petits portraits, comment ils évoluent. De temps en temps, vous faites comme ce ne sont pas des encarts, mais vous arrivez avec beaucoup d'adresse. J'admire beaucoup la façon dont à la fois vous suivez, vous développez l'histoire de la miniature dans le temps, comment vous suivez la chronologie, et en même temps, comment vous réussissez à marquer des temps forts ou des pauses sur des points un petit peu particuliers. Par exemple, vous avez évoqué les cheveux tout à l'heure.
Ah oui.
Miniature et cheveux, c'est inattendu.
Oui, les cheveux ont beaucoup d'importance. Notamment en Angleterre, au XVIIIe siècle et même avant, il y a des mèches de cheveux très fréquemment au revers des miniatures. Alors, ou bien ce sont des mèches qui ont été tressées, qui forment une sorte de petit damier, ou bien qui entourent, qui sont prises dans le cadre de la miniature, et puis quelquefois il y a simplement une mèche de cheveux, et on l'a pratiqué aussi un petit peu partout, mais enfin les Anglais ont été très 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 sensibles à cette présence des cheveux, et les Français aussi, puisque je vous ai dit tout à l'heure que Dagoty avait travaillé avec un miniaturiste en cheveux qui ne faisait que des exercices avec des cheveux, et qui s'appelait Vauxin, qui était un miniaturiste qui venait des Flandres. Voilà.
Il y a la miniature bijoux également.
Alors la miniature bijoux, parce que évidemment la miniature est un petit portrait qu'on peut poser sur sa table, qu'on peut accrocher à un mur, mais évidemment on la porte sur soi. Et j'ai parlé tout à l'heure de cette jeune femme qui avait la miniature qui était cachée dans le décolleté de sa sa robe. Les femmes portaient des bracelets qui étaient souvent en cheveux d'ailleurs, et ça c'est vraiment à l'époque romantique, on faisait des tresses de cheveux, et sur cette tresse de cheveux on plaçait un portrait du mari, de l'enfant, enfin de la personne aimée. Et puis il y avait des bagues, il y avait vraiment toutes sortes de bijoux qui portaient des miniatures. Mais évidemment, par exemple, une bague, c'était des miniatures très 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 petites. Et puis alors, il y a l'œil.
Ah, j'allais vous alors, en parler, parce que c'est très, très, c'est un chapitre un petit peu... C'est curieux, effectivement, que vous m'appelez ça le détail exalté. C'est une très jolie formule. Je vois, il y a des miniatures, un œil qui vous regarde, c'est vraiment... étonnant, un petit peu perturbant, même parce que c'est un
très étrange. Oui, c'est très étrange. C'est un œil unique. Alors, c'était évidemment, c'est l'œil de la personne aimée. Alors, il y a toute une symbolique autour de l'œil. L'œil est la fenêtre de l'âme. Et alors, il y a une miniature ici. J'ai reproduit une miniature de Boccia, qui était un miniaturiste italien qui a travaillé quelque temps à Bordeaux. Et Boccia a fait un œil. Un œil qui est merveilleusement protégé dans un écrin en velours qui se referme. Et enfin, je reviendrai sur... Voilà, c'est celui-là. Et alors, on voit, quand on le regarde à la loupe, il y a le reflet de la fenêtre qui apparaît dans l'iris de l'œil. C'est tout à fait étonnant. Et alors, peut-être que Boccia, peut-être plus particulièrement savant, a voulu exprimer par là... que l'œil est le miroir et la fenêtre de l'âme.
Ah, oui.
C'est très important, ça. Et ça existe déjà dès l'époque élisabéthaine. Hein.
Il y a des miniatures élisabéthaines d'une sophistication
extraordinaire. Oui, tout à fait extraordinaire, avec des devises, avec ces motos en latin, quelquefois qu'on comprend mal d'ailleurs. Enfin, ça c'est tout le raffinement de la miniature anglaise.
Bon, l'époque romantique est plus sage.
L'époque romantique est plus sentimentale.
Plus sentimentale.
Strictement sentimentale, oui, tout à fait.
Oui. Et alors, vous évoquez évidemment des grands noms. Il faut quand même, vous avez parlé d'Isabée, vous avez parlé d'Iliard. Bon, il faut quand même célébrer un petit peu quelques-uns de ces artistes qui sont inconnus. Et souvent, d'abord, peut-être qu'il y a beaucoup de portraits qui ne sont pas signés, mais quand on tombe sur un portrait, on a la chance de tomber sur un portrait qui est signé, ce sont des noms qui ne nous parlent pas beaucoup. Alors que j'imagine certains de ces artistes ont eu une grande réputation,
tout
indépendamment
à fait.
D'Isabée ou de Halle.
Oui, et puis une réputation internationale, par exemple. Je vais encore citer le cas d'un Bordelais. Il y avait un miniaturiste bordelais qui s'appelait Colas et qui a travaillé quelque temps à Bordeaux, qui a fait quelques beaux portraits à Bordeaux, et puis qui est parti pour Saint-Pétersbourg et qui est resté longtemps en Russie. Et puis ensuite, il est revenu et il est parti pour les États-Unis. Et il s'est installé à la Nouvelle-Orléans. Voilà, et j'ai retrouvé dans un catalogue de musées américains, j'ai retrouvé des miniatures de Colas. Donc c'était des artistes, les bons miniaturistes étaient des artistes internationaux qui étaient appelés...
Un peu itinérants.
Tout à fait, oui. Le portraitiste est souvent un artiste itinérant. Alors quand les portraitistes arrivaient dans une ville, bon, quand il ne s'agissait pas de grands noms évidemment qui avaient été appelés à la cour par exemple, ils faisaient passer des annonces dans les journaux en disant voilà, un tel est arrivé par exemple à Bordeaux et fait le portrait en grand et en petit. C'est comme ça que Dagoty s'est manifesté dès 1802 en arrivant à Bordeaux. C'est en faisant passer des annonces dans l'Indicateur, enfin, ou dans différents journaux bordelais.
Et indépendamment du musée des arts, de la collection du musée des arts décoratifs, vous avez retrouvé dans des familles bordelaises, comme ça, des miniaturistes qui élargissent un petit peu l'éventail de la production bordelaise. Il n'y a pas que Dagoty.
Non, il n'y a pas que Dagoty. Alors justement, il y a eu un don qui a été fait au musée. Je crois que c'est en 2007, tout à fait important d'une famille bordelaise, qui est la famille Ferrière. Et là, ça a été pour moi une mine absolument étonnante, parce que cette famille a déposé au musée tout un ensemble de miniatures, de petits portraits, c'est-à-dire que ça commence avec la fin du XVIIIe siècle et ça se prolonge jusqu'au milieu de la seconde moitié du XIXe avec des photographies. Entre-temps, il y a des physionotraces. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors d'abord parce qu'une grande partie de ces miniatures étaient placées, étaient encadrées dans un très grand cadre. Voilà, c'est ce qui est ici. Donc là, il y en a 2, 4, 6, 8. Oui, il y en a 8 qui sont réunis dans un cadre. Et alors là, évidemment, il y avait... C'est là qu'on se rend compte de ce qu'a été la miniature, de ce rôle utilitaire de la miniature, si vous voulez, qui n'était pas forcément considéré comme une œuvre d'art, mais qui était, comme nous considérons aujourd'hui la photographie, c'est-à-dire c'était vraiment le témoignage de personnes, enfin c'était l'image de personnes qu'on voulait garder. Et donc, dans cet ensemble donné par la famille Ferrière, bien entendu, il y a des miniatures de Dagoty, qui est un peu personnage incontournable, portraitiste incontournable à Bordeaux, mais il y a aussi des miniatures de Bazire, il y a des miniatures de Colas, et puis il y a des miniatures de gens qui... Alors, Bazire et Colas ont vécu quelques temps à Bordeaux, et puis il y a eu des gens qui venaient comme ça, juste pour une année ou pour quelques mois, comme Blaise, par exemple, ou comme d'autres noms. Ça, c'était vraiment très, très intéressant. Et puis, dans cette famille, enfin, dans cet ensemble de portraits de la famille Ferrière, il y avait ces physionotraces qui sont alors...
Dites-nous ce que c'est pour nous rafraîchir la mémoire.
Voilà. Alors, le physionotrace, c'est vraiment l'ersatz de la miniature. Le physionotrace est mis au point. C'est un appareil assez sophistiqué, très important, un grand appareil en bois, d'à peu près 1,75 m de haut, qui permettait, en fait, à l'aide d'un pantographe, qui permettait de prendre le profil au naturel du modèle. Et à partir de ce profil au naturel, ce profil grandeur nature, donc, on faisait une réduction, toujours à l'aide du pantographe, on pouvait faire une réduction, et à ce moment-là, une réduction aux dimensions approximatives d'une miniature, c'est-à-dire 5 ou 6 cm de haut, et que l'on gravait sur une plaque de cuivre. Alors évidemment, le portrait étant gravé, le profil bien sûr, toujours, étant gravé sur une plaque de cuivre, on pouvait tirer autant d'exemplaires... On disait, je crois que l'inventeur Kennedy disait qu'on pouvait tirer jusqu'à 2000 gravures. C'est peut-être un peu exagéré. Mais enfin, on pouvait en tirer quand même un certain nombre. Et alors, ces petites gravures ont eu beaucoup de succès à la fin du XVIIIe siècle, évidemment, au moment de la Révolution, au moment ensuite des guerres, des terribles guerres napoléoniennes, parce qu'au moment de se quitter, au moment du départ, il y avait des échanges de petits portraits, comme on échange bien sûr des photographies. Alors quelquefois, ces physionotraces...
Il y a une légende parfois,
non ? Oui, quelquefois, vraiment. On trouve le nom de la personne représentée, mais enfin, ça, c'est pas très très fréquent, mais quelquefois, on les coloriait très joliment à la gouache ou à l'aquarelle. Et puis, il y a eu, parce que à la fin du XVIIIe siècle, il y a un grand engouement pour les profils. On a très souvent reporté des physionotraces sur de l'ivoire ou sur du bois. Voilà. Alors, je voudrais juste aussi citer un exemple d'une miniature justement à propos des cheveux. C'est une très jolie miniature qui représente Madame de Staël. Et Madame de Staël, peinte par un merveilleux miniaturiste genevois qui s'appelait Bouvier. Et j'ai pu avoir cette miniature par le descendant direct de Madame de Staël, le comte d'Haussonville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la bélière, c'est-à-dire le petit anneau du médaillon où se trouve cette miniature de Madame de Staël. Il y a une cordelière qui passe. Et Monsieur d'Haussonville m'a dit que cette cordelière avait été faite avec les cheveux de son arrière-arrière-grand-mère, donc Madame de Staël. Donc voilà, ça c'est à propos des cheveux encore, l'importance des cheveux.
Ouais. Ben oui, c'est toujours la même signification sentimentale, évidemment. Oui. Oui. Alors, il y a aussi une production de miniatures un petit peu particulière et peut-être sur un support que l'on n'attendait pas. C'est la porcelaine.
Oui.
C'est très étrange aussi. Enfin, très étrange, c'est très particulier parce que ça montre effectivement l'ouverture, le succès.
Ça montre, oui.
Et puis, c'est aussi peut-être une miniature inaltérable.
C'est une miniature inaltérable. Alors, ces miniatures sur porcelaine, évidemment, coïncident avec le développement de la porcelaine et de la porcelaine dure, c'est-à-dire de la porcelaine kaolinique, qui est surtout mise au point d'abord à Sèvres par l'extraordinaire Alexandre Brongniart. Et cela permettait... alors, il y a eu, oui, parce qu'il y a eu une très grande miniaturiste très importante qui s'appelait Marie-Victoire Jacotot, et qui a fait énormément de miniatures sur porcelaine, et qui avait demandé que l'on mette sur son tombeau qu'elle était l'inventeur de la peinture inaltérable. Et ça, c'était vraiment l'avantage de la miniature sur porcelaine, évidemment, c'est qu'elle n'a pas du tout cette fragilité de la miniature sur ivoire.
Alors, apparemment, elle est un peu moins transparente, mais elle a plus d'éclat.
Oui,
non,
enfin, c'est oui. Alors oui, ça c'est une pièce extraordinaire parce que ça c'est Le Guay qui a été un extraordinaire porcelainier qui a travaillé chez Dill et Guérard et ensuite à la manufacture de Sèvres et qui a été l'époux de cette brillante Madame Jacotot à qui il a dû apprendre effectivement la miniature sur porcelaine. Alors c'est très joli la miniature sur porcelaine, mais personnellement je trouve que ça reste quand même un portrait un peu froid. Ça ne vaut pas la miniature sur ivoire.
Alors je regarde le temps, on a encore quelques minutes, mais il faudrait s'intéresser aussi à l'évolution de cet art du petit portrait et aux avatars et aux difficultés qui l'attendent à partir du moment où la photographie, les physionotraces, le daguerréotype d'abord, et puis après d'autres procédés encore plus industriels, plus meilleur marché, se développent. Et comment se passe ? Est-ce que la photo véritablement a tué la miniature, là, c'est un assassinat comme
oui,
ça,
mais alors,
brutal
c'est, ou... Non, ça n'a pas été brutal. Ouais. Ça n'a pas été brutal parce qu'en fait, ce qui est tout à fait intéressant, et ça, Pierre Bardoux, dans son très beau livre sur la photographie en Gironde, le montre très bien, c'est qu'il y a eu vraiment... d'abord, il y a certains miniaturistes qui ont compris l'importance de la photographie et qui se sont fait photographes tout en restant miniaturistes. Et il y a aussi beaucoup de photographes pratiquant des daguerréotypes, mais qui les faisaient repeindre par un peintre. pour justement qu'on ait quand même un peu l'illusion encore de la miniature. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'était cette période charnière où les miniaturistes ont rivalisé avec les photographes, en fait. Il y a eu vraiment et ils ont un petit peu, et ils ont travaillé ensemble, en fait, oui.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des miniaturistes ?
Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est que j'ai eu la chance de pouvoir présenter mon livre chez Christie's. Et il y avait énormément de collectionneurs qui sont venus, d'abord, et des miniaturistes. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment étonnée. Ouais. C'est qu'il y a encore d'extraordinaires miniaturistes.
Et en alors, France ou en Angleterre ?
En France. Là, à Paris, c'était évidemment des Français. Et notamment, il y a eu une miniaturiste très importante qui s'appelait Cécile Villeneuve, qui est morte relativement tard, qui est morte en 1901. Donc, qui a travaillé pendant la seconde moitié du 19e siècle et qui a très souvent, d'ailleurs, travaillé comme William Ross, le grand miniaturiste de la reine Victoria, qui a fait des miniatures à partir de photographies. Ah, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, cette Cécile Villeneuve, qui a fait un nombre considérable de miniatures, eh bien, j'ai vu sa petite-fille ou son arrière-petite-fille qui est venue me trouver à la fin de ma conférence et qui m'a montré des miniatures tout à fait extraordinaires. Elle avait d'ailleurs fait
Qu'elle fait elle-même.
Ah. Alors, elle avait repris quelques miniatures, elle avait recopié quelques miniatures de son aïeul, et les miniatures de Cécile de Villeneuve sont des miniatures très prisées. Et elle avait fait un portrait de Jacques Chirac, quand même, c'est assez étonnant.
Oui.
Mais je ne sais pas
d'après photo, j'imagine.
Je ne sais pas. Alors, elle ne m'a pas dit si c'était d'après photo, je n'ai pas posé la question, ou si elle l'avait peint au naturel. Enfin, ça, je ne sais pas. Mais enfin, bon, je ne sais pas si Chirac pourra tirer une grande, comme Élisabeth d'Angleterre, une grande gloire de cette miniature. Mais enfin, il y a encore des miniaturistes, tout à fait. Oui. Et puis, il y en a sûrement en Angleterre, et plus qu'en France, et voilà.
Et alors, bon, je pense que on a fait un peu le tour, parce que maintenant, il faudrait prendre miniaturistes les uns après les autres, mais peut-être comme ça, un petit peu pour conclure, je vois ces fameux petits tableaux, vous savez, ces portraits d'intérieur que vous connaissez particulièrement, parce que vous avez eu des...
Votre
admiration particulière pour Mario Praz. Voilà. Et alors, comment qualifier un peu la miniature et la décoration, et la miniature et les collectionneurs, peut-être pour,
Oui, alors, si vous voulez, là j'ai pu prendre quelques-unes de ces petites peintures qui appartenaient, qui font partie de la collection Mario Praz, qui est maintenant réunie dans un musée à Rome qui s'appelle le musée Mario Praz. Et ça, c'était très intéressant parce que ce sont donc des vues d'intérieur, de salons ou de chambres du 19e siècle, et on voit les miniatures qui sont accrochées au mur, ou bien qui figurent sur une table, ou bien encore dans un coffret à couture. Enfin, c'est quelque chose de très touchant. On sent que véritablement, au 19e siècle, on vivait avec ces miniatures.
Donc aujourd'hui, il y a encore quelques amateurs, et c'est tout. Mais c'est la
maintenant, il y a quelques amateurs. Ouais. Mais la miniature continue à être aimée passionnément. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que l'historien et grand écrivain Emmanuel de Varesquiel a accepté de faire une préface à mon petit livre. Et je trouve qu'il a parlé de la miniature d'une façon tout à fait extraordinaire. Le titre de son... Ça s'appelle Pays du souvenir.
Miniature Pays du souvenir et des sentiments.
Voilà, Pays du souvenir et des sentiments. Et ça, j'ai trouvé que c'était merveilleux.
C'est un plus à ce livre, ce livre vraiment magnifique, qui ouvre donc, qui nous fait découvrir un monde extrêmement séduisant, à la fois sentimental, bien entendu, un peu romantique, mais qui est aussi de la peinture, dans la mesure où la peinture s'est donnée comme vocation depuis sa naissance d'être une image. Parce qu'aujourd'hui, il faut que la peinture, c'est une invention tout à fait contemporaine. Enfin, la légende nous explique comment est née la peinture, n'est-ce pas ? Je ne sais plus. La légende, elle m'échappe maintenant avec le nom, mais vous savez, c'est cette jeune femme qui reproduisait sur le mur...
Le profil de son fiancé.
Le profil. Donc, dès sa naissance, la peinture a eu cette vocation de représenter l'image et l'image humaine. Et à ce titre, la miniature, me semble-t-il, n'est pas un art secondaire, si tant est qu'il y en ait. Ce n'est pas, disons, un art simplement anecdotique et pas non plus simplement sentimental. C'est un art qui a révélé des artistes qui sont des vrais grands peintres, mais des grands peintres qui peignent en petit. Et pour ces raisons, évidemment, on ne peut pas les accrocher au mur des musées. Et ils peignaient aussi pour la confidentialité, en quelque sorte. Donc ça explique cette situation un petit peu étrange de la miniature. Mais grâce à votre livre, nous avons tout ce qu'il faut pour en comprendre l'histoire, pour en apprécier la qualité. Et je vous remercie de nous avoir donné ce beau livre.
Eh bien, il me reste à vous remercier, Robert, de m'avoir...
C'est nous qui vous remercions.